du matin avec toujours le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et tout de suite retrouvez la douce Marlène Duré et vos programmes de la nuit.
Merci Valérie, bonne nuit et rentrez bien. Une heure, Europe 1 n'a pas sommeil. Et bonne nuit à vous tous qui nous écoutez peut-être sur la route ou depuis votre lieu de travail ou de résidence. Comme toujours, c'est avec Christophe Ondelatte que nous allons débuter notre promenade nocturne avant de retrouver un petit peu plus tard Pascal Pro, d'autres témoignages de la Libre Antenne au micro d'Olivier Delacroix cette fois et bien sûr Sophie Davant entourée de sa bande de copains. On est ravis de vous accompagner jusqu'à 6h.
Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
En août 2017, David Paterson fonce en voiture sur une pizzeria de Seine-et-Marne. Il tue Angela Yakov, 13 ans, et blesse 13 autres clients du restaurant. Il explique que c'était la seule solution, car il était pourchassé par la mafia. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de David Paterson.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelatte raconte. Côte B sur Europe 1.
Le 14 août 2017, la famille Yakov s'installe à la terrasse de la pizzeria Cessena à sept sorts en Seine-et-Marne. Ils ont longtemps hésité entre cet Italien et le Chinois d'à côté. À 20h10, une BMW grise fonce sur la pizzeria. La voiture emporte la terrasse bondée de clients et elle vient s'encastrer dans le restaurant. Personnes sont blessées. La petite Angela Yakov, 13 ans, est tuée. La presse s'emballe. Un an après l'attentat du camion Bélier sur la promenade des Anglais à Nice, tout le monde imagine une nouvelle attaque terroriste.
Le conducteur de la voiture a été interpellé. Les gendarmes cherchent à savoir si d'une part il s'agit d'un acte intentionnel et si oui, quelles sont les motivations de l'auteur. À ce stade, il est trop tôt pour le savoir. Les enquêteurs vont forcément chercher à savoir si cet homme était connu des services de renseignement.
Le conducteur de la BMW est sain et sauf. Il s'appelle David Paterson. C'est un agent de sécurité de 32 ans. Et en garde à vue, il explique pourquoi il a foncé dans la pizzeria. Et c'est sidérant. Bon, Paterson, vous n'êtes pas un grand truand. Vous êtes un peu comme nous. Vous faites dans la sécurité. Qu'est-ce qui vous a pris de foncer dans cette pizzeria? Je n'ai pas réfléchi. J'ai réalisé quand j'ai vu un homme sur le capot de la voiture. Mais en partant de chez moi, je savais que j'allais faire du mal. Mais je voulais pas tuer. Je voulais mourir. Je voulais échapper aux gens qui m'en veulent. Je voulais en finir. Je voulais me suicider. Mais qui t'en veut? Tout le monde. Des gitans. La mafia.
Il y a un élément qui, moi, m'a beaucoup marqué dans ce dossier.
François Mazon, avocat de la famille Yakov.
C'est que je crois que c'est un des officiers de police judiciaire qui l'entend en garde à vue. Donc là, on est au milieu de la nuit. Hein. Ça a eu lieu à 20h11. Il doit être placé en garde à vue vers 23h, quelque chose comme ça. Et qui dit qu'une chose qui l'a beaucoup surpris, c'est que en le conduisant vers la pièce dans laquelle il a été entendu, il s'arrête devant une pièce qui est ouverte, dans laquelle une télévision est allumée et passe en boucle des images sur ce qui vient de se passer.
Plusieurs blessés, il est complètement déboussolé.
Il y a une voiture Bélier qui est rentrée dans le restaurant avec beaucoup de blessés.
Il regarde ça, il est un peu fasciné par ça. Tout ça sont des éléments qui, de mon point de vue, caractérisent quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, qui était lucide et dont le discernement, de mon point de vue, était parfaitement normal.
Pour commencer, la piste terroriste pour le moment écartée en Seine-et-Marne après qu'une voiture ait bel et bien foncé dans une pizzeria hier soir après 20h.
Il tenait des propos très confus lors de sa garde à vue, probablement à cause de ses médicaments qu'il avait pris juste avant. Il a dit avoir tenté de se suicider dimanche. Il voulait tout simplement repasser à l'acte. La piste de l'attaque à caractère terroriste est donc pour le moment écartée, d'autant que l'homme n'était pas connu des services de renseignement.
En garde à vue, David Patterson est examiné par un psychiatre. Le médecin conclut que son discernement n'était pas aboli ni altéré au moment où il est passé à l'acte. Son interrogatoire se poursuit donc.
Ce matin, la mère, Betty, a accepté de témoigner sur Europe 1 au micro de Pierre de Cossette pour raconter cette vie qui bascule en quelques secondes.
On a entendu les grincements des pneus. Je me suis retournée. J'ai vu ce véhicule foncer sur nous. J'ai pas eu le temps de réagir. J'ai juste senti le coup dans le dos et j'étais à terre. J'ai mis quelques secondes à reprendre mon souffle. Et là, je regarde autour de moi. La première personne que j'ai vue, c'était ma fille, qui était juste à la droite de la voiture, sur le ventre. J'ai senti qu'elle était partie. Je l'ai suppliée de revenir. Je lui ai dit « Angela, nous laisse pas. » Reviens. Il avait le sourire aux lèvres. Il était satisfait de ce qu'il avait accompli. Je ne peux pas oublier ce visage satisfait. Il n'y a pas d'excuse pour ce qu'il a fait. Il a tué notre fille.
Le sourire traduit pour elle la volonté de tuer, la volonté de faire mal. Mais faire mal, quand on projette une voiture qui fait 1,5 tonne à peu près, à environ 80 km/h, dans une pizzeria dans laquelle il y a à peu près 60 personnes qui sont en train de dîner. Et avec le sentiment, me dit-elle, que cette table, sa table à elle est visée.
Je ne suis pas du tout certain qu'il faille interpréter l'expression de son visage comme un sourire.
Maître Éric Plouvier, avocat de David Patterson.
Un sourire de quoi ? Un sourire de fou, peut-être ? Un sourire de quelqu'un qui a eu un choc violent dans une vitrine, peut-être ? Mais dire qu'il a souri comme quelqu'un qui sourit de la satisfaction de l'acte qu'il a accompli, c'est un contresens.
Pendant sa garde à vue, à l'occasion d'un temps de repos, David Patterson s'automutile. Il balance sa tête contre les murs de sa cellule. Il s'arrache 6 dents et hurle « Je suis un fou! Internez-moi !»
Un individu au profil plutôt troublant qui doit être présenté d'ailleurs à un juge ce matin après 48 heures de garde à vue. Une garde à vue qui n'a pas permis aux enquêteurs d'y voir plus clair. Éric de Valroger, le procureur de la République adjoint de Meaux, ne cachait pas sa perplexité hier après-midi.
Les auditions s'avèrent très compliquées. L'intéressé tient des propos incohérents. Il nous déclare avoir consommé une quantité importante de médicaments la veille des faits. Il explique qu'il envisageait de se suicider. Et puis, dans un deuxième temps, il explique que finalement, c'était pour dormir. Il apparaît un véritable délire de persécution. L'intéressé indique qu'il se sent suivi.
Précisément les déclarations de Patterson, on sent que ça va pas très bien dans son esprit. Ce que je dis, c'est que le psychiatre est passé à côté du diagnostic. David Paterson était dans la croyance cauchemardesque, dans la croyance extrêmement douloureuse d'être persécuté. Les signes cliniques sont multiples. C'est, par exemple, lire une bande dessinée et penser que la petite voiture rouge qu'on voit dans une bande dessinée est celle qui nous suit lorsqu'on est au volant d'un véhicule. Par exemple, de penser que lorsque votre codétenu partage du poulet avec vous, l'os qui est dans le poulet est destiné à vous tuer. Si vous arrivez à vous imaginer dans un cauchemar, et bien vous êtes dans la peau de Paterson, mais qui n'est pas en train de dormir, mais qui est éveillé. C'est-à-dire toute la réalité est transformée par la maladie en éléments hostiles. Il n'a pas visé ou vu cette pizzeria. Il regardait son rétroviseur avec les êtres qui lui en voulaient et qui le poursuivaient. Et sa seule obsession, c'était de s'échapper de cette souffrance et de ce délire. Donc Paterson est dans un cauchemar éveillé et il cherche à s'en sortir.
Le juge d'instruction met David Paterson en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. En prison, il est expertisé par 3 collèges d'experts. Ils sont unanimes. L'agent de sécurité est atteint d'un délire de type paranoïaque.
Il dit avoir agi sur un coup de tête et ne pas avoir véritablement anticipé les conséquences de son geste. Pour nous, psychiatres, c'est indiscutablement un acte pathologique.
Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
C'est donc un contexte délirant, un délire de surveillance, un sujet épié, qui se sent pourchassé, qui se sent traqué dans ses plus intimes pensées. Il imputait cette surveillance à la mafia ou aux gens du voyage qui cherchaient à le faire passer pour un pervers ou pour un pédophile. Donc ça, c'est son vécu. Alors, il était amateur de vitesse, donc il loue une BMW parce qu'il aime les belles voitures. Et cette voiture elle-même va être incluse dans le délire, puisqu'elle est supposée avoir été piratée. Donc, y compris dans cette voiture, il n'était plus vraiment en sécurité.
En détention, pour soigner son délire paranoïaque, David Paterson est shooté aux médicaments. Son avocat, maître Éric Plouvier, ne le reconnaît pas.
Donc il est dans une sorte de camisole chimique, hein, avec une voix pâteuse, avec un regard fuyant, avec un être abîmé par la maladie et abîmé par le traitement, mais qui en tout cas ne passe plus à l'acte. David Paterson est un tout petit bateau fragile qui se laisse porter. Il n'a pas la capacité même de comprendre qu'il peut sortir ou peut être déclaré irresponsable ou partiellement responsable ou puni d'une peine plus petite. Il se laisse porter dans la maladie qui est la sienne avec une sorte de fatalisme et la considération que peut-être il sortira jamais, il sera oublié de sa famille, de ses proches, de son père, et qu'il séchera en prison jusqu'à la mort. Il est dans une sorte d'indifférence d'un malade, conscient d'avoir causé du tort à autrui. Il est dans une sorte d'abandon de la maladie entre quatre murs.
Code B23. Expertise psychiatrique des docteurs Casanova et Ferrandi. David Paterson est un homme de 33 ans, de présentation correcte, cheveux ras et barbe rasée. Il présente une absence de dentition à la mâchoire supérieure. Auprès des deux experts, il sera tranquillement assis sur sa chaise. Il aura un comportement adapté et le ton de la réponse ne sera pas agressif. Néanmoins, en fonction des thèmes abordés, David Paterson fera des réponses sur un mode buté et répétitif qui démontre une forme de rigidité mentale.
Il se produit ce qui se produit à chaque fois, c'est-à-dire que on ne sait pas qu'on va être expert, on lit les journaux, et comme toujours, il y a un écart considérable entre les représentations qu'on a pu avoir avant et celle qu'on ressent en face de la personne quand on est amené à l'expertiser. Mais ça, c'est vrai pour lui, mais c'est vrai tout le temps. On est en face d'un jeune homme qui n'est pas du tout réticent à répondre aux questions, qui le fait dans la mesure de ses capacités. C'est un garçon immature, c'est un garçon fragile, qui a perdu sa mère en bas âge.
Code B45, expertise psychiatrique des docteurs Coutenceau et Jean-François. La mère de David Patterson est décédée d'un cancer quand il avait 4 ans. Il dit avoir souffert d'une absence d'amour maternel, mais il n'en dira pas plus. Il affirme que son père lui préférait sa sœur. Il apporte également des précisions sur les compagnes de son père. « Ma première belle-mère était alcoolique, agressive. Elle tapait mon père et avec ma sœur, c'était conflictuel. Avec ma deuxième belle-mère, ça n'était pas facile non plus. »
Il a la chance d'être dans un milieu hybride, c'est-à-dire à la fois français et à la fois britannique par son père, hein, d'où son nom, Patterson. Il a la chance d'être dans un milieu qui n'est pas dans la difficulté financière. Il a reçu une certaine somme d'argent d'une donation de ses parents. Donc il est à la fois quelqu'un qui a toutes les chances d'être ancré dans la société, mais dont la caractéristique profonde est celle d'être quelqu'un qui est malade et qu'il faut soigner et que personne n'a cherché à soigner de manière efficace avant le passage à l'acte.
Sur le plan professionnel, il était instable, il avait des petits boulots successifs, il n'a pas terminé son BEP.
Il n'arrive pas à rester quelques mois dans n'importe quel métier. Il reconnaît lui-même que depuis très très jeune, il fume énormément de cannabis.
François Mazon, avocat de la famille Yakov.
Les amis le décrivent comme quelqu'un qui est radin, qui est intéressé, qui est pas fidèle en amitié. Enfin, il donne pas le sentiment d'avoir à la fois une vie très heureuse, mais aussi d'aller dire d'être quelqu'un de bien. Et donc, on peut effectivement en conclure qu'il avait peut-être à ce moment-là un besoin d'exister, un besoin tout d'un coup d'être quelqu'un.
Tout ça, ça fait un sujet peu sûr de lui-même, peu confiant, susceptible, avec ce qu'on appelle communément des complexes, c'est-à-dire un vécu d'insuffisance, d'infériorité, et puis une tendance à hyper réagir à tout ce qui pourrait blesser son amour-propre.
Code B18, expertise psychiatrique des docteurs Dubec et Zaguré. L'examen psychiatrique fait apparaître de nombreux traumatismes psychologiques, des antécédents d'appétence pour l'alcool et le cannabis, mais également une agression sexuelle à l'âge de 12 ans. La personnalité de David Patterson est sensitive. Cela se traduit par une grande sensibilité dans les relations sociales, une susceptibilité avec une impulsivité, une faible estime de soi et une recherche de valorisation.
Il était surtout en relation avec un cadre de santé, cette femme avec qui il vivait ou avec qui il partageait l'affection et vie commune, qui avait signalé le fait que David Patterson n'allait pas bien, cette pensée que quelque chose allait arriver de l'ordre du passage à l'acte psychiatrique d'un délirant. Elle appelle le père, elle cherche à faire une démarche constructive avec le père pour l'amener à l'hôpital et elle ne le fait pas.
Un mois avant de foncer sur la pizzeria avec sa voiture, David Patterson se retrouve seul. Sa copine vient de le quitter. Cette séparation est un déclic. L'agent de sécurité stoppe sa consommation de cannabis. Pour les experts psychiatres, ce sevrage brutal, non accompagné par des professionnels, l'a complètement perturbé.
Il Il s'était lui-même sevré, j'allais dire sauvagement, c'est-à-dire sans aide médicale, d'une intoxication cannabique chronique très ancienne, hein, puisque ça commençait à l'âge de 12 ans, ça s'est amplifié à l'âge de 16 ans. Donc le cannabis, il y a deux façons pour qu'il produise des effets. D'une part, en consommer, d'autre part, cesser d'en consommer. Et c'est fréquent que des sujets soient hospitalisés après une tentative d'interruption sauvage. Le sevrage lui-même peut induire l'amplification de tel état délirant.
David Patterson est mis en examen pour assassinat. Cela veut dire que les deux juges d'instruction pensent que David Patterson avait décidé de foncer sur la pizzeria, décidé de tuer des gens. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Je vois d'abord un homme qui a anticipé cette action.
François Mazon. Avocat de la famille Yakov.
Il loue 3 jours avant une très grosse BMW récente qui fait 1,5 tonne. Il n'a aucune raison de louer cette voiture pour faire des courses, puisqu'à un moment, il a prétendu que c'était le cas.
On a cherché à faire de cette location d'un véhicule BMW une sorte de matérialisation d'un désir criminel.
Maître Éric Plouvier. Avocat de David Patterson.
Mais ça marche pas, puisqu'on sait que Patterson aimait les voitures et avait des habitudes de location qui ne rencontrent pas donc le désir criminel, mais des habitudes de vie par rapport à des véhicules.
Le jour même où il loue, il va repérer les lieux, c'est-à-dire qu'il fait un tour autour de cette pizzeria. On sait qu'il va dire ensuite après qu'il savait que cette pizzeria, sa terrasse n'était pas protégée. On voit un moment quand il est arrêté à un feu, grâce notamment aux caméras de vidéosurveillance, qu'il fixe la pizzeria et pour ensuite ne pas y aller directement et faire ce grand détour. Donc tous ces éléments mis bout à bout démontrent la volonté prévue à l'avance de tuer.
Il ne voit pas sur la terrasse des gens en train de manger des pizzas. Il regarde pas devant lui. Il est même pas acquis qu'il a vu que c'était une pizzeria plutôt que la tour Eiffel ou un mur. Il est obsédé par son rétroviseur et les gens qui le poursuivent. Il est dans un cauchemar, donc il ne veut pas tuer, il veut pas faire du mal aux gens, il veut se sauver d'une souffrance extrême qui est celle d'un malade. La seule chose qui était sa préoccupation obsédante pour lui, c'était de sortir de son délire paranoïaque, comme on cherche à sortir chacun d'un cauchemar. C'était sa logique, une logique de folie, une logique difficile à comprendre, mais c'était la sienne.
Code P27, expertise psychiatrique des docteurs Casanova et Ferrandi. Pour Monsieur Patterson, il s'agit d'une altération du discernement en lien avec un vécu persécutif délirant. Mais il n'est pas possible de conclure à une abolition car les faits ne s'inscrivent pas dans un mécanisme d'automatisme mental. David Patterson voulait échapper à un poursuivant. Son discernement a donc été altéré.
Ce que David Patterson nous a dit, c'est ce que nous disent des centaines de sujets qu'on reçoit à l'hôpital. Pour nous, psychiatres, c'est la dimension pathologique ne fait strictement aucun doute.
Tous les psychiatres ont tous non seulement diagnostiqué cette maladie, cette psychose avec ce délire paranoïaque, mais tous ont considéré que sa liberté, sa conscience était entravée par cette maladie. Tous. Et cela entraîne, c'est pas automatique, c'est une décision de la justice, en principe une diminution de la peine. Mais malheureusement, l'expérience montre que la folie fait peur. Et la folie faisant peur, les juges professionnels, hein, même les juges professionnels et les jurés, pensent que le meilleur moyen d'éviter cette peur, ayant refusé de plonger dans l'irrationnel, c'est de condamner plus lourdement.
La cour d'assises de Seine-et-Marne vient de le condamner à la peine maximale.
Oui, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans en raison de l'exceptionnelle dangerosité de l'accusé, selon les mots du président de la cour d'assises. L'accusé qui n'a eu aucune réaction à l'énoncé de ce verdict. Dans la salle, un homme portant un t-shirt à l'effigie d'Angela, l'adolescente décédée, lève le poing. La mère de la victime, elle, a fondu en larmes. Pendant le procès, le conducteur a toujours dit qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer. La préméditation a pourtant bien été retenue par les jurés, ce qu'a salué François Mazon, l'avocat des parents de l'adolescente décédée.
Il n'a pas assumé ses responsabilités. Et de ce point de vue-là, ce fameux sentiment de culpabilité que toutes les victimes ont exprimé, je pense qu'avec un verdict de ce niveau-là, on a clairement montré qui était coupable. Et c'est pas eux.
Dans des cas comme celui de David Paterson, face à un mur judiciaire où il n'existe aucune fenêtre pour faire entendre la raison et entendre qu'on doit soigner l'individu qui est face à soi, parce que c'est un archaïsme judiciaire terrible et terrifiant de penser que nos institutions ne peuvent pas digérer des cas comme celui de Paterson et rendre justice, c'est-à-dire en considérant qu'une personne a affaire avec des médecins, mais pas affaire avec la violence de l'incarcération.
Toujours, c'est très important, l'expertise psychiatrique, votre avis est essentiel, il faut éclairer la cour, mais que très souvent, on n'en tient absolument pas compte. Et en tant que citoyen, je peux le comprendre, quand les faits sont trop atroces et que vraiment c'est insupportable dans la réaction sociale, bah, on ne tient pas compte de ce qu'on dit, c'est tout, voilà, c'est comme ça.
Code B32. Expertise psychiatrique des docteurs Dubec et Zaguré. Plusieurs épreuves de vie de David Paterson ont pu entraîner le passage à l'acte et une décompensation. Le décès d'une tante, peu avant les faits, sa rupture sentimentale, le sentiment d'avoir été floué et l'arrêt du cannabis qui ont entraîné une flambée de son sentiment de persécution.
Je crois qu'il y a, dans son mobile, dans son intention, une volonté d'être quelqu'un. Et d'être quelqu'un en faisant... on peut être quelqu'un en battant un record de vitesse à la voile, on peut être quelqu'un en créant une société qui réussit. Enfin, on peut être quelqu'un de plein de façons. Là, c'est la pire des façons. Il s'est toujours défendu de ça, et à l'audience en particulier. Mais je garde l'idée que ça peut être une des raisons pour lesquelles il a commis ça. Parce que, encore une fois, en dehors de ça, on voit pas très très bien quel est le rationnel derrière une telle action.
Docteur, j'étais perdu. J'avais perdu la raison. J'étais devenu fou. Aujourd'hui, en prison, j'ai des médicaments, alors j'arrive mieux à réaliser ce que j'ai fait. Mais comprendre, c'était impossible. J'ai pas d'explication. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'observateur extérieur, ça peut être une énigme. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour le sujet lui-même, c'est dans une grande mesure une énigme. Il a lui-même ce sentiment d'étrangeté par rapport à ce qu'il a commis.
En première instance, David Paterson est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il fait appel et un an plus tard, il est rejugé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne. Mesdames et messieurs, la cour, faites entrer l'accusé.
On est en plein confinement, c'est très particulier.
François Mazon,
avocat de la famille Yakov.
On a tous des masques. Et David Patterson a un masque. Et c'est là où on se rend compte qu'un masque, on voit pas la personne.
Monsieur Patterson, nous avons échangé avec les jurés. Et nous aimerions toutes et tous que vous montriez votre visage. Pouvez-vous retirer votre masque quelques instants, s'il vous plaît? Non. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que j'ai plus de dents en haut. Et puis voilà, je veux pas quoi.
Finalement, il va le faire. Et pour la première fois, on va le voir, on va vraiment voir son visage.
Quand on voit le portrait de David Patterson un peu avant les faits et le David Patterson aujourd'hui, il est physiquement complètement déformé.
Maître Éric Plouvier, avocat de David Patterson.
Il est méconnaissable. Il avait une apparence de 20 ans, de 20 ou 30 ans de plus qu'il n'a. Donc le phénomène du vieillissement a été probablement accru par l'isolement, par la chimie, et un être quasiment inintelligible, un peu dans la raison, plus qu'avant sans doute, mais dans cette fragilité qui était très apparente.
C'est un homme qui a plutôt la tendance à regarder le sol que à regarder les personnes qui sont dans la salle, et en particulier les victimes. C'est un homme qui fuit les questions directes, en tous les cas ne reconnaissant pas l'aspect prémédité de son geste.
Quand vous louez cette BMW, c'est dans quel but ? Aucun. J'aime les bagnoles, donc je me fais plaisir. D'accord, mais dans ce cas, le soir des faits, pourquoi faites-vous plusieurs demi-tours devant la pizzeria avant de projeter le véhicule? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais fou, je voulais pas tuer.
Je ne suis pas certain que son regard sur les faits soit un regard lucide. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se resituer au jour des faits, à son passage à l'acte. J'ai l'impression qu'il est toujours dans une certaine confusion et avec son souci même de bien faire, puisque à la cour d'assises, il a essayé le plus sincèrement du monde d'essayer d'expliquer son comportement. Mais c'est très compliqué d'essayer de rationaliser un comportement irrationnel.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Voilà deux semaines que la cour d'assises de Seine-et-Marne tente de comprendre les motivations de David Patterson, ce vigile de 36 ans jugé pour l'assassinat d'une jeune fille de 13 ans. En août 2017, il avait lancé sa voiture sur la terrasse d'un restaurant. Ce matin, l'interrogatoire de l'accusé a enfin débuté, Justin Morin.
Oui, et l'accusé s'est cantonné à une réponse répétée à chaque fois qu'il a été mis en difficulté. J'ai été diagnostiqué paranoïaque. J'étais dans le flou, c'est le mot. J'étais dans la détresse. L'accusé parle d'une voix grave mais chevrotante, les mains tremblantes. Il suit un traitement psychiatrique lourd et ça se sent dans ses réponses fluctuantes. À un moment, son avocat l'a même coupé. Soyez direct, allez-y. Son client poursuit la tête baissée. Oui, j'ai foncé dans la pizzeria. Volontairement, précise le président. Oui. Il avoue que c'est un miracle s'il n'y a pas eu plus de morts, mais après avoir dit cela, il explique qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer et que ça n'était pas prémédité. Toujours ce flou, sa paranoïa pour se justifier. À chaque fois, la salle réagit, des chuchotements, des têtes qui se baissent, lassées, celle de la mère de l'adolescente décédée, de son frère, mais pas celle de son père. Il ne quitte pas des yeux celui qui est accusé d'avoir tué sa fille.
Lui, il a aucune émotion, vraiment aucune émotion. Et quand il essaye d'en avoir, c'est extrêmement vain, c'est pas naturel du tout. C'est très étonnant. Il est ce qu'il est. C'est une stratégie qui probablement il a choisie, qui est une stratégie où il se défile. Il ne reconnaît pas sa responsabilité. La seule explication et tentative de circonstances atténuantes qu'il essaye de définir, c'est que il était devenu fou. Il entendait des voix. voix, c'est quelqu'un qui a compris, peut-être en lisant le code de procédure pénale ou le code pénal, ou peut-être en échangeant avec ses avocats, que l'altération du discernement, c'est très bien. Et le fait qu'il n'y ait pas de préméditation, c'est très bien.
Monsieur le Président, je vous assure que j'avais pas de dessein criminel qui a été formé à l'avance. Monsieur Patterson, je suis l'avocat de la partie civile. Je représente les parents d'Angela, cette petite fille de 13 ans que vous avez assassinée. Vous venez de répondre au Président que vous n'aviez pas un dessein criminel formé à l'avance. Je pense qu'il n'y a pas un millième de citoyens français qui connaissent cette formule juridique très précise.
Quand on dit ça, c'est qu'on a lu l'article du Code pénal et qu'on essaye, encore une fois, de démontrer qu'il n'y a pas de préméditation. Donc on est dans quelqu'un qui est un calculateur. Il a compris qu'il avait tout intérêt à ce que l'altération soit reconnue parce que ça diminuait la peine encourue.
Maître Mazon, vous avez la parole pour les parties civiles.
La seule fois où j'ai vu Sacha, le père, pleurer, c'est quand le médecin légiste a décrit les conséquences du choc subi par sa fille, avec des termes extrêmement durs à entendre, qui montraient l'extrême violence du choc. Une voiture d'une tonne 5 à 80 km/h en énergie, c'est considérable. C'est une bombe. Moi, j'ai dit à l'audience que c'est l'équivalent d'envoyer une bombe dans ce restaurant. Sacha Yakov, le père, qui est un homme extraordinaire, c'est un homme qui, la première fois que je le vois, quelques jours après les faits, qui me dit « Mais vous savez, maître, ma fille, je la voyais à mon bras sortir de l'église le jour de son mariage. Et je sais que ça n'arrivera jamais. » Et j'ai dit « Angela a été enfantée par l'amour de Betty et Sacha, ses parents. Elle a été désenfantée par la haine de David Patterson. Ils ont perdu une partie d'eux-mêmes. »
On appelle les jurés de la cour d'assises de Seine-et-Marne reconnaissent l'altération du discernement de David Patterson au moment des faits. Mais elles le condamnent tout de même à la même peine qu'en première instance. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. C'était On de la Traconte, version Code P, tous les vendredis et tous les samedis à 14h sur Europe 1 et en podcast dès 6h du matin, comme toutes les histoires que je vous raconte. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête aujourd'hui de Vincent Deby, réalisation Mathieu Frette.
Retrouvez On de la Traconte, Code B, tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast. De la Traconte, Code B revient aujourd'hui avec de nouvelles personnalités criminelles à décrypter. Elisabeth Silva et sa maman Marie-Josée, en 2015, elles ont tenté de se suicider en mettant le feu à leur appartement, mais surtout en emportant avec elles la fille d'Elisabeth, la petite Elsa, à cause d'un délire paranoïaque. On de la Traconte, Code B, les Silva, le clan complotiste, ce sera donc aujourd'hui samedi de 14h à 15h sur Europe 1. La nuit se poursuit dans un instant avec Pascal Praud et vous. Tous les jours de la semaine en fin de matinée, il vous donne la parole pour réagir sur l'actualité. Ce vendredi, Anthony Delon est venu nous parler de son roman Bastingage, paru aux éditions Fayard. Et puis on a parlé évidemment des événements à Sciences Po Paris, puisque des appels à bloquer des lycées ont été lancés sur les réseaux sociaux. Mais avant de se replonger dans l'émission, musique avec un ex-membre des Temptations, Dennis Edwards, avec un titre de 1984, Don't Look Any Further, sur Europe 1. Oh, oh, well.
Dennis Edwards, la voix inoubliable de Papa Was a Rolling Stone, le morceau culte des Temptations. Et oui, c'est lui, Dennis Edwards, que l'on vient d'écouter. Et la voix féminine, eh bien, c'est la chanteuse Sieda Garrett, qui est surtout connue pour avoir collaboré avec Michael Jackson et Quincy Jones. Elle a été aussi choriste de Madonna. Elle a également fait partie du groupe Brand New Heavies. Bref, entre autres choses, elle a fait plein de choses, cette chanteuse. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de se replonger dans ce morceau sorti en 1984, Don't Look Any Further. Bonne nuit avec nous sur Europe 1. On va maintenant retrouver Pascal Praud et vous en nouvelle diffusion. Émission d'actu dans laquelle vous intervenez pour réagir, pour témoigner entre 11h et 13h du lundi au vendredi.
Europe 1.
Pascal Praud et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1.
Et effectivement, rien ne change à Sciences Po Paris, une nouvelle fois occupée par des étudiants pro-palestiniens. C'est un magnifique résultat du tone hall à Sciences Po, puisque la réoccupation immédiate des locaux s'est mise en place à peine cette réunion de tone hall était-elle terminée. La pantalonnade, si j'ose dire, continue. Alors on va écouter Aurore Berger, qui est ministre chargée de l'égalité entre femmes et hommes. Elle était invitée ce matin de BFM.
Moi, je suis surtout très triste de la situation à Sciences Po. Moi, j'ai été tellement fière d'en être l'élève.
Vous êtes une ancienne élève de Sciences Po.
Quand je vois ce qui s'y passe, ça n'est pas l'école que j'ai connue. C'était une école où il y avait du débat, parfois très frontal. Il y avait du combat politique, même du combat syndicalisme étudiant. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas d'antisémitisme à Sciences Po. Je suis désolée, mais quand je vois des étudiants tendre des mains rouges qui rappellent des images où des Israéliens ont été décapités, il y a deux solutions. Soit ils sont incultes, soit ils sont antisémites. Dans les deux cas, c'est un problème puisqu'ils sont à Sciences Po.
Ils sont peut-être l'un et l'autre. Marion Maréchal, tête de liste Reconquête pour les élections européennes, elle était invitée de Public Sénat.
J'ai le sentiment parfois, non seulement d'une lâcheté de la direction, mais d'une complaisance, pas seulement de la direction d'ailleurs, mais même des enseignants. On voit même qu'à Sciences Po Menton, le campus a carrément été fermé. On se souvient à Sciences Po Paris de cet accord insupportable qui a consisté à renoncer aux sanctions disciplinaires en échange bien du déblocage de l'université. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, vu l'état de la situation, il faut une enquête administrative. Voilà, sur aujourd'hui la radicalisation de cette école, les enseignements qui y sont délivrés, le poids et la pression de ces minorités activistes d'étudiants qui font la loi dans ces écoles et l'attitude de la direction. Et il faut pouvoir, si nécessaire, remettre en cause les subventions publiques aujourd'hui qui font vivre Sciences Po et tous ces campus, parce que ces écoles ont quand même vocation à former des serviteurs de l'État et non pas des casseurs, des bloqueurs, des radicaux et des extrémistes.
Et puis, Laurent Jacobelli a également pris la parole. Il est député du Rassemblement national. Il était interrogé il y a quelques minutes par Laurent Tessier.
Madame Retailleau, qui est la ministre chargée de cette affaire, est une ministre fantôme. Le jour où les étudiants d'extrême-gauche pro-palestiniens et pour certains même antisémites ont commencé à mettre le bazar, elle, elle était en réunion électorale pour faire la pub de sa candidate aux européennes. Donc on a un gouvernement qui ne fait pas le boulot, mais face à l'islamo-gauchisme, face aux attaques, que ce soit des black blocs dans les rues ou des étudiants pro-éléphistes dans les universités, le gouvernement regarde ailleurs par peur, par crainte et peut-être même par électoralisme. Aujourd'hui, la bande à Mélenchon fait la loi dans les facultés, elle fait la loi dans la rue et elle sème le bazar à l'Assemblée nationale. Il est temps de réagir parce que c'est la démocratie qui est en danger.
Lucie est avec nous. Bonjour Lucie, vous êtes étudiante à Sciences Po Paris.
Oui, tout à fait. Je suis en première année master.
Et merci d'être avec nous. Je voulais savoir si vous faites partie des étudiants qui manifestent ou des étudiants qui subissent ce blocage.
Non, moi je fais partie de la majorité silencieuse, on peut dire ça comme ça.
On a toujours du mal à savoir combien d'étudiants sont les bloqueurs, les manifestants. Est-ce que c'est une poignée? Est-ce que c'est davantage? Est-ce que c'est un courant important?
Quand on y est, on peut dire que c'est quand même impressionnant. Pour avoir été dans les couloirs quand il y a commencé à y avoir des sit-ins, notamment au 27. C'est quand même assez impressionnant.
Qu'est-ce que vous appelez au 27 cours. Au 27 rue Saint-Guillaume?
Au 27, oui, c'est ça. C'est le petit nom qu'on lui donne, on donne les numéros. Ouais, c'est assez quand même impressionnant de sortir de cours et de voir que tout est occupé et voilà, qu'on peut même plus... Enfin, on peut circuler, mais à pas de velours, dirons-nous, parce qu'on a l'impression plutôt de marcher sur des œufs. Et on se sent comme pas étranger à sa propre école, mais comme si on était pas qu'on entrait dans une zone de guerre, mais de conflit et de conflit avec les autres étudiants. Alors que voilà, on n'a pas l'impression qu'on peut forcément débattre avec eux, puisque enfin j'ai essayé et l'idée c'est que on a toujours l'impression qu'on est contre l'humanité ou contre ce qu'ils appellent leur humanité. Et donc, c'est assez difficile. Parce que pour eux, pour vous dire les choses concrètement, ils défendent tout à fait la Palestine, mais sans condamner le Hamas. Enfin, du moins, je ne les ai jamais entendus le faire. Du coup, moi, ça me pose extrêmement problème, surtout qu'ils ne parlent jamais des otages. Et j'ai voulu en parler. Et une fois, on m'a répondu, mais de toute façon, les otages, ils sont tous morts. Mais quelle est notre humanité, du coup, là-dedans? On doit choisir. On s'apitoie pas sur le sort des otages. Pour eux, ça n'est pas, c'est même pas une donnée, quoi.
Mais ceux qui nous écoutent peuvent partager, pourquoi pas, l'avis qu'ils peuvent avoir sur la situation palestinienne. Mais que demande-t-il à Sciences Po et en quoi ce conflit-là vient perturber au quotidien l'enseignement de Sciences Po?
Bah, écoutez, quand vous avez cours et que vous entendez à l'extérieur Israël assassin...
Non mais que demande-t-il à Sciences Po? Que demande-t-il à la direction?
Ah mais ça a été dit. Ils voulaient qu'ils arrêtent tout partenariat avec les universités israéliennes ou les entreprises qui, pour eux, contribuaient à ce qu'ils appellent un génocide.
Donc ça, c'est la revendication principale, c'est la cause de la manifestation. C'est parce qu'ils considèrent que Sciences Po, d'une certaine manière, est complice, pourquoi pas, ils le vivent comme ça, de ce qui se passe à Gaza.
Non, c'est plus que Sciences Po, pour eux, doit avoir une position claire sur le conflit. Et elle doit s'exprimer. Enfin, l'institution doit s'exprimer, doit prendre parti.
Et pour eux, c'est... C'est ça. Bon, et oui, effectivement, et alors vous avez le sentiment que la direction est... Et à l'écoute de cela ou qu'elle est faible?
Comme vous avez pu voir dans les résultats, ce qui a été dit durant le town hall, la direction a décidé qu'il n'y aurait pas de groupe de travail pour parler des questions des partenariats. Donc en ce sens-là, elle a été ferme. Mmh. Et pour le reste, elle nous envoie des mails à nous autres étudiants pour nous dire ce qui se passe. Mais sinon, elle est un peu... Elle n'est pas si présente, je dirais.
Vous étiez présente dans ce qu'on appelle ce town hall hier?
Je n'avais pas pu être présente. J'ai eu tous les résultats puisqu'il y a eu une retranscription. Donc on a pu suivre ce qui se disait.
Et tous les étudiants auraient pu être présents ou c'était un nombre limité d'étudiants qui étaient conviés?
Donc il y avait des comités, mais on a aussi reçu un mail où il fallait s'inscrire dans la limite des places disponibles. Puisque du coup c'était dans un amphi. Donc il faut... qu'il y a cette place, mais on avait reçu, il y a un lien pour pouvoir s'inscrire. Donc, qui veut aurait pu y aller.
Lucie est avec nous, et je rappelle que si vous nous écoutez à l'instant, 11h23 sur Europe 1, Lucie est étudiante à Sciences Po Paris, et que c'est un témoin de ce qui se passe aujourd'hui. Les sanctions, que dit-on en interne? Est-ce que les sanctions sont envisagées de ces jeunes gens qui bloquent? Et est-ce que les sanctions peuvent aller... jusqu'à l'exclusion définitive de Sciences Po?
Il a été question de cela au début, mais je crois savoir que ça a été retiré de la table, qu'ils ont décidé de ne pas poursuivre les sanctions envers les manifestants, notamment ceux qui avaient essayé d'occuper le campus Saint-Thomas. Hein. Donc ils ont retiré ça, je sais. Mmh. Et après, de l'autre côté, ils défendent le fait que c'est la liberté d'expression et que ce serait quand même difficile de les renvoyer par rapport à ça.
Sauf qu'ils sont en dehors de la loi. C'est-à-dire que quand tu bloques et quand tu occupes illégalement ce bâtiment, ils pourraient être exclus définitivement. Moi, je pense que c'est une position qui peut être envisagée. Vous avez été très choqué par les mains ensanglantées qui était montré par ces manifestants.
Oui, puisque étant à Sciences Po, étant très au fait du conflit israélo-palestinien, ces personnes sont au courant de l'histoire. Et elles ne peuvent pas se dire d'oublier certains événements de l'histoire en disant « Ah non, on veut juste représenter des mains en sang », surtout dans le contexte. Il y en a certains, ceux qui ont initié devaient le savoir pertinemment. Ça me semble totalement absurde ou d'une mauvaise foi incroyable de dire qu'ils en étaient absolument pas conscients.
On sera avec Pierre-Alexandre tout à l'heure. Pierre-Alexandre qui est intervenu déjà et qui a simplement envie de travailler, c'est ce qu'il nous disait, et qui est victime donc de ces blocages et de ces manifestants. On a l'impression que tout cela est parfois un prétexte à autre chose. C'est l'impression que j'ai, qu'au fond, ces jeunes gens, je ne suis même pas sûr qu'ils sachent précisément ce qui se passe à Gaza, et que je vois une autre motivation derrière tout cela. Est-ce que vous partagez cet avis, Lucie ?
Non, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Pour moi, ce sont des gens qui sont un peu trop... qui manquent de nuances, dans le sens où, pour eux, il n'y a que la population palestinienne qui souffre, et que je veux dire, des innocents qui meurent. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de Hamas, ou du moins, je n'en entends pas parler. Ils ne condamnent pas le... Enfin, ils condamnent le 7 octobre en disant que c'est une tragédie. Ils sont très enclins à poser des mots forts, mais ils n'ont jamais posé le mot de pogrom sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Et moi, ça me gêne beaucoup. Et donc, vous voyez, pour eux, il n'y a qu'une seule sorte d'humanité, et du coup, ils se placent, pour eux, du bon côté de l'histoire. C'est quand même ce qu'a dit une personne de Elefi, n'est-ce pas ? Qu'il y avait un bon côté de l'histoire et qu'ils étaient du bon côté. Et moi, je pense que le bon côté de l'histoire, c'est la paix. Et c'est la paix entre les deux, entre les Israéliens et les Palestiniens. Et ça, j'ai l'impression que quand on crie « Israël assassin », on oublie toute la population palestinienne, israélienne. Pardon. Et qu'on se concentre, en fait, on essentialise le gouvernement à tout Israël. Alors qu'il y a quand même, en Israël, des gens qui descendent dans la rue contre leur gouvernement.
Bien sûr,
c'est quand même fou de se dire.
Mais bien sûr, et on peut être d'ailleurs extrêmement sévère sur Netanyahou.
Oui, tout à fait.
Je pense qu'on peut remettre en cause cette politique, bien évidemment. C'est ce qu'a fait, avec beaucoup d'intelligence, Alain Finkielkraut cette semaine dans le Figaro. Bien sûr que Netanyahou est un frein aujourd'hui à une possible avancée sur ce dossier. C'est ce qu'il disait, et oui, il n'a pas tout à fait tort. Je vais vous remercier, Lucie.
Juste embraser le conflit. C'est ce que je disais, en fait. Ça ne va pas aider, ça va juste embraser et polariser le conflit que de ne pas parler et de chercher vraiment la paix.
Europe 1, Pascal Pro.
Olivier Benkemoun est là dans le studio et on parlera tout à l'heure cinéma avec lui. J'ai une petite question que je pose à tous ceux qui passent à ce micro depuis 11h. Est-ce que vous avez, cher ami, un jardin ?
J'ai un jardin secret.
Ah oui,
un petit potager.
Oh là là, potager. Oh là là,
ça va labourer.
Moi, j'ai aussi un pote âgé, mais il a plus de 80 ans.
Pourquoi cette question?
Bon, oh là là. Mais parce que... Non, mais carton jaune, le rentrissier, là, vous avez entendu?
J'ai un pote âgé. Pourquoi cette question? Parce que demain, c'est, figurez-vous que c'est la journée mondiale du jardinage nu.
Oui.
Et je me demandais si vous aviez un jardin et si demain vous alliez bêcher dans le plus simple appareil.
J'ai pas besoin de jardin pour être nu, Pascal.
Oh,
je suis un peu exibo.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet.
Bon, je dis au revoir à Lucie, je la remercie beaucoup, Lucie. Lucie, vous passez quand vos examens, qui est étudiante à Sciences Po?
Je n'ai pas son mai.
Ah bah donc c'est quand? C'est bientôt?
Donc c'est la semaine prochaine. Non, la semaine peut-être d'après.
Et là, il y a combien d'examens? Il y a du contrôle continu? Il y a de l'examen final? Comment ça se passe, là, le passage dans l'année supérieure?
Moi, je sais qu'étant en master, on a beaucoup plus de travaux ou de projets de groupe et de papers à rendre. Donc c'est plutôt des choses à envoyer par mail. Que des examens sur table, vraiment, enfin, ce qui me concerne, en tout cas.
Bon, et a priori,
c'est vrai que moi, je suis moins impactée.
D'accord, et a priori, vous passez donc en quelle année, l'année prochaine, ce sera ?
En deuxième année de master.
Deuxième. Bon, nous aussi, on a des projets de groupe, très souvent, ensemble.
On ne les met pas souvent à bien, mais...
On ne sait pas si on va aller en deuxième année, nous, parce que M. Vidal...
on n'est pas retenu ?
A priori, si. A priori, au mois de mai, on ne nous a pas dit qu'on était viré encore. Mais a priori...
Bon, on ne m'a toujours rien dit pour l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est normal, mais
Je vous en parlerai, d'ailleurs. Faut que je vous dise deux, trois petites choses.
Ça marche.
Voilà.
Merci
parce que
à vous.
Le projet de groupe est...
le groupe va être modifié.
Le groupe vit bien. Bon, Lucie, on a un petit peu de légèreté pour vous, donc on voulait vous faire plaisir et puis vous dire au revoir en musique.
Lucie, dépêche-toi. On vit, on ne meurt qu'une fois. Et on a le
Quelle
temps
chanson, c'est magnifique ça. Qu'est-ce qui se passe?
Pardon?
Non mais je vois que vous voulez parler.
Ah non, pas du tout. Non, j'allais vous parler dans le casque, rien à voir.
Dans
mais...
le casque, il veut vous parler. Non, mais il est non, garçon. Non,
j'allais vous dire, on a Pierre-Alexandre, voilà, pas que vous l'oubliez.
Mais est-ce que vous m'avez déjà vu ou entendu oublier un témoin de cette émission depuis le 28
Non, pas oublié, mais je peux dire la vérité.
Oui.
On vous parle à peu près 30 fois pour avoir une seule fois l'attention.
Vous trouvez que j'ai un problème d'attention?
Ah oui, oui, qui est avéré. Vie, oui, vous êtes même le vainqueur de la Ligue des Champions de la... oui, oui, du manque d'attention, bien sûr.
Je suis le vainqueur de la Ligue des Champions du manque d'attention.
Oui, oui.
Mais vous n'avez pas compris.
Vous faites mine de ne pas entendre.
Je vais à l'essentiel.
Ah, bah, si l'essentiel, c'est pas nous, ça fait plaisir.
Souvent, vous faites du bruit avec votre bouche. Donc, je sais que quand il faut retenir l'attention.
Pendant 4h30 par jour, excusez-moi, du bruit de votre bouche.
Oui, d'accord. Bon, Lucie, bon week-end. Vous vous reposez quand même ce week-end un petit peu, Lucie? Vous allez prendre du bon temps dans Paris?
Oui, bien évidemment.
Bon, écoutez, je vous ai mal entendu, mais j'ai compris que c'était bien évidemment. Nous sommes avec Pierre-Alexandre, un petit mot de Pierre-Alexandre, parce qu'on l'a eu deux fois cette semaine, une fois sur CNews, une fois sur Europe 1.